Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Fire Escape. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Charles. Il vit à New York depuis un an après avoir trouvé l'amour dans le Tennessee. Il s'est donc marié avec une Américaine et a obtenu la fameuse carte verte. Dans ce podcast, nous parlerons de son parcours, des différences entre sa vie américaine et française. On parlera aussi du dating à l'américaine et des différences culturelles dans un couple. On parlera aussi des différences entre le Tennessee et New York et du parcours du combattant pour obtenir la carte verte. Aujourd'hui, direction New York donc, avec un passage à Nashville et même une courte escale à Seattle. C'est parti.
Bienvenue sur le podcast. Tu habites à New York depuis un an, c'est ça?
C'est ça, ouais, à peu près un an.
Ok. Donc toi, tu as été aux États-Unis grâce à la carte verte, car tu t'es marié. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours?
Oui, alors assez brièvement, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis en tant que touriste. Et puis, j'ai fini par y aller pour passer un semestre dans le cadre de mes études à l'étranger. Semestre durant lequel j'ai rencontré une fille qui est devenue ma femme aujourd'hui. Mmh. Et après quelques mois de relations à distance, on s'est mariés en France et j'ai entamé les démarches pour pouvoir immigrer aux États-Unis. Et voilà, là, j'ai obtenu la green card, la fameuse green card que j'ai depuis le 29 février 2020.
Félicitations.
Voilà. Merci beaucoup.
Tu m'avais dit que tu avais été à la base aux États-Unis pour étudier un semestre, c'est ça? C'était un programme d'échange?
C'était un programme d'échange, oui. J'ai passé un semestre à Nashville, dans le Tennessee, mm-hmm. dans le cadre d'un Master 2 d'école de commerce.
Ok. Pourquoi est-ce que tu as choisi les États-Unis? C'était parce que c'était une bonne opportunité ou tu l'as juste voulu particulièrement?
Quand tu choisis ton université partenaire quand tu es en école, c'est par rapport à ton classement. Alors généralement, les États-Unis, ça part assez vite. Moi, en fait, j'étais dans un programme qui était particulier. J'étais en école de commerce et j'étudiais le management et le marketing de la culture. Et mon projet de vie, moi, c'était de travailler dans le milieu de la musique. Mm-hmm. Donc, projet assez particulier. Évidemment, quand tu regardes les écoles partenaires aux États-Unis, t'as la Californie, t'as New York, t'as ce genre d'endroits qui sont hyper attractifs. Et puis t'avais Nashville dans le Tennessee. Bon, autant te dire qu'il n'y a pas grand monde qui veut y aller. Sauf que Nashville dans le Tennessee, pour la musique, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi.
Ouais.
Donc, en fait, le choix était assez évident pour moi. Je ne cherchais pas particulièrement à aller aux États-Unis, tu vois. J'étais pas dans l'optique de États-Unis à tout prix. Mm-hmm. Je m'étais dit que c'était vraiment l'occasion, c'était parfait pour la musique, et puis bon, ça me permettait d'aller voir autre chose que San Francisco et New York, que tout le monde connaît, tout le monde a vu, revu, quoi.
Donc, à la base, tu rêvais pas forcément des États-Unis, alors? C'est plus pour la musique en elle-même.
C'est ça, pour cette décision-là, ouais, par rapport au rêve États-Unis. Je crois que c'est un truc que j'ai toujours, que j'ai un peu toujours rêvé, tu sais, dans l'arrière de ma tête, quoi. Mm-hmm. Ça remonte à, je sais pas, je devais avoir 15 ou 16 ans et t'es hyper immergé dans la culture américaine, tu vois, entre ce que tu regardes sur YouTube, ce que tu vois sur Internet, enfin, t'es constamment exposé à de la culture américaine et je pense que j'avais très envie, si tu veux, de vivre aux États-Unis et je me rappelle avoir cherché comment est-ce que je pouvais vivre là-bas. Et c'est là que j'avais été confronté à tous les trucs de carte verte, green card et compagnie. Je m'étais dit, c'est impossible. Ouais. Et donc, en fait, je m'étais un petit peu dit, bon, ce rêve-là, finalement, c'est tellement impossible, laisse tomber, passe à autre chose, quoi. Et en fait, j'avais jamais revu la possibilité de pouvoir éventuellement vivre là-bas. J'ai revu cette possibilité-là quand j'ai commencé à fréquenter quelqu'un et j'ai commencé à réellement me documenter là-dessus. Et que je m'étais dit, ah non, mais en fait, il y a quand même des moyens, ouais, mm-hmm. d'y arriver. Donc c'est une sorte de rêve bafoué et j'avais un peu fait une croix sur les États-Unis parce que je m'étais dit que c'était impossible. Et quand je m'étais rendu compte que c'était possible, bah là, la motivation repart, si tu veux.
Ouais, je comprends. Tu penses que c'était quoi en particulier qui t'avait attiré là-bas?
Comme je te disais, c'est le fait que t'es constamment exposé à de la culture américaine, que ça soit dans la musique, que ça soit dans les films, dans les séries. Tu vois en permanence cette vie... Si je pense aux séries, je pense notamment à la Californie. Il fait beau, il fait chaud, tout le monde est beau, tout le monde est heureux, il y a de l'argent, tout va bien. C'était un peu cet idéal qui est toujours construit dans les médias et dans la culture américaine. Donc forcément, ça fait envie. Toi, t'es chez toi, c'est en novembre, il pleut, ta vie est un petit peu nulle, tu prends ton métro. Tu vois, quand t'es exposé à ce genre de choses-là, tu te dis, putain, mais en fait, ce serait tellement mieux si je vivais là-bas. que je pense qu'en fait, c'est ça qui attire.
Et du coup, toi qui vis maintenant, tu verrais quelle différence entre la vision que tu avais avant et celle que tu as aujourd'hui ?
que la vie aux États-Unis est beaucoup plus dure qu'elle en a l'air. En fait, ça te fait prendre conscience de plein de choses que tu considères comme acquis en France. Mm-hmm. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas forcément acquis ici. Il y a plein de choses que j'aime aux États-Unis, il y a plein de choses que j'aime pas. Je sais pas si c'est intéressant de comparer réellement les deux, tu sais, de dire c'est mieux d'être aux États-Unis et c'est mieux d'être en France.
Oui, bien sûr.
C'est juste des vies qui sont complètement différentes. Moi, je pense que ça me colle le plus d'être ici. Mais voilà, c'est des choses qui sont très personnelles. Quelle différence concrètement? je vais te dire les premières choses qui m'ont choqué. Les premières choses qui m'ont choqué, ça a été la nourriture, tout d'abord. Ça, je pense qu'en tant que Français, c'est non négligeable, mais oui. J'en parle parce que ça a réellement un impact énorme sur ma vie.
C'est clair.
Tu vois, manger, c'est un truc que tu fais 3 fois par jour. Et moi, je me suis rendu compte que pendant longtemps, 3 fois par jour, c'était source d'angoisse, quoi. Parce que manger correctement ici, c'est cher, c'est pas facile. Mm-hmm. Manger des trucs qui ont un bon goût, c'est pas non plus facile. Tu vois, c'est pas non plus qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'accès. Donc ça a été un premier choc. Les relations sociales sont aussi extrêmement différentes. Donc on s'y fait, hein. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien qu'en France, mais c'est très différent. Le rapport au travail est aussi extrêmement différent. Enfin, je veux dire, c'est une vie qui n'a rien à voir. Le dépaysement qu'on a en venant vivre ici est beaucoup plus grand que tout ce que tu peux mesurer. On a tendance à se dire, les États-Unis, c'est le monde occidental, c'est un pays riche, c'est comme en France, quoi. Et en fait, pas du tout. T'es radicalement dans une culture qui n'a rien à voir. Et c'est assez déroutant au départ, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qui m'avait surpris aussi au début, à quel point c'est pareil, mais pas pareil, en fait. Ça ressemble beaucoup, et pourtant, il y a toutes ces petites différences qui changent tout. Du coup, au contraire, c'était quoi que tu as ressenti la première fois que tu as posé le pied en Amérique ? Donc, quand tu n'avais pas encore eu ces chocs-là, un peu ce temps de découverte que tu as eu, comment tu l'as ressenti ?
Moi, la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'était à New York. New York, c'est assez étonnant d'aller visiter cette ville parce que c'est une ville que tu as déjà vue, mais tellement de fois, entre les films, les séries, les photos. Tu es tellement exposé à New York qu'en fait, quand tu y vas pour la première fois, tu te dis, bah, en fait, j'ai déjà vu tout ça.
Ouais.
Mais en même temps, tu vois ces bâtiments qui sont monstrueusement grands, que tu savais que c'était grand, que c'était grandiose, que tout est grand aux États-Unis, mais quand tu es sur place, tu te rends compte à quelle échelle c'est. C'est-à-dire que toi, en tant que Français, même si tu es parisien, tu te rends pas compte à quel point les buildings sont énormes, tu te rends pas compte à quel point les routes sont larges, tu te rends pas compte à quel point, quand tu vas au resto, les portions sont énormes. Mm-hmm. Cette espèce de gigantisme, moi, c'est le premier truc qui m'a surpris, je pense comme tout le monde, quand il est question des États-Unis, de toute façon.
Bien sûr.
Je dirais aussi qu'il y a une bien meilleure, il y a une meilleure bonne humeur générale à New York que quelque chose que Paris, par exemple. Paris, tu prends un métro, t'as 100% des gens qui font la gueule, t'as personne qui parle à personne, ouais. Tout le monde regarde vers le bas, et je trouve qu'à New York, tu as une espèce d'atmosphère optimiste, d'atmosphère joyeuse, tu sais, ils utilisent beaucoup ce mot-là aux États-Unis, mais grateful. Mm-hmm. Où on n'a pas vraiment de traduction ou même d'idée de ce concept-là en français ou en France, ce fait d'être reconnaissant de la vie, tu vois, tout simplement, de se dire, ouais, on vit dans un des pays les plus riches du monde, enfin, le pays le plus riche du monde, dans une des villes les plus riches du monde, et voilà. Et ça, c'est vraiment un truc que tu ressens, enfin, en tout cas, moi, que j'ai ressenti la première fois que j'ai foutu les pieds aux États-Unis, ouais.
Ouais. Et alors, après, tu as été à Nashville, donc le Tennessee, c'est complètement différent de New York.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as ressenti en allant dans un état différent comme ça, par rapport à New York ?
Alors, moi, j'avais aucun a priori sur le sud ou tout ça, parce que je m'étais pas tellement renseigné, en fait, sur la question. Le premier contact que j'ai eu, le premier choc, ça a été quand je suis arrivé là-bas, on était deux, un ami et moi. Mm-hmm. Et on devait se retrouver dans un Airbnb. Et on arrive en face du Airbnb, on essaie de contacter l'hôte. Alors bon, évidemment, on a nos téléphones, tu sais, pas de 4G, donc on galère un petit peu à contacter l'hôte en question. L'hôte répond pas, donc on se dit, bon bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va essayer de trouver un bar où se poser et attendre une heure ou deux dans le quartier, quoi, en attendant. Mm-hmm. Donc avec nos valises, on se déplace dans un bar un peu en banlieue de Nashville. On finit par trouver un bar à 5 minutes, quoi. On rentre pour commander une bière, et là, le mec qui nous reçoit, c'est le patron de la taverne en question, tu vois, et c'est vraiment le mec du sud, quoi.
Ouais, j'imagine bien.
Le mec du sud, incompréhensible. Incompréhensible.
Ah ouais.
Impossible de commander, c'est-à-dire, il nous parle, on comprend rien, on lui parle, il comprend rien, on est obligé de parler avec des signes pour aller commander une Budweiser, tu vois. Enfin, le truc est complètement surréaliste, et c'est là où tu te dis, ah ouais, c'est chaud, je croyais que je parlais couramment anglais, en fait, pas du tout. Et ouais, en fait, il y a des grosses différences entre le sud et ailleurs, quoi. Genre, c'est vraiment un monde à part. Le mec retourne nous voir, il nous demande si, enfin, il veut nous voir avec nos valises. Je pense que c'est pas un truc qu'il voit régulièrement. On est aussi des étrangers, je pense que c'est pas un truc qu'il voit régulièrement.
Ouais.
Il vient nous voir, il essaye de nous aider, il comprend pas pourquoi on est là. Donc, il nous demande si on veut un téléphone, si on veut une connexion Internet. Donc, on profite de tout ça. Le mec hyper sympa, il nous demande si on a mangé quelque chose. Donc nous on sortait de l'avion, on sortait d'une dizaine d'heures d'avion. Donc évidemment non, on avait faim, mais bon, on n'avait pas envie de dépenser de l'argent, on savait pas trop quoi manger et tout. Le mec nous a ramené un bol de popcorn énorme, t'as jamais vu ça ? Qui nous a pas fait payer ?
Ah ouais, l'hospitalité.
C'est vraiment exactement, ouais. Et c'est là où tu te dis, putain, c'est hyper étonnant. Alors que moi j'avais entendu les États-Unis, tout est marchand, tout est machin. On s'est dit, mais le mec, il va falloir qu'on le paye. Et en fait, pas du tout. Le mec, à la fin, c'était « J'espère que je vais vous revoir. Ravi de vous rencontrer. » Et voilà, quoi. Donc ouais, là, tu te rends compte qu'il y a vraiment une véritable différence entre le reste des États-Unis et le Sud.
Et maintenant que tu habites à New York, il y a des choses qui te manquent dans le Sud ?
L'espace. New York, c'est une ville qui est hyper dense, tu vois, c'est comme Paris, c'est comme si tu comparais avec Paris et la campagne, quoi. t'as beaucoup de place à la campagne, t'en as pas à Paris. C'était un peu la même chose entre le Sud et New York. New York, c'est une ville où ouais. Tout le monde est entassé, et c'est sûr que t'as beaucoup plus d'espace dans le Sud. Puis le Sud, c'est une super belle région, hein. Alors, je sais que c'est pas une région qui est très populaire, on parle tout le temps de racisme et de ces gens extrémistes et tout ça, surtout en ce moment, mais c'est une région qui est absolument magnifique. Le Tennessee, c'est incroyablement beau.
Je peux bien imaginer, ouais. J'ai encore jamais été là-bas. Bon, la Floride, je ne crois pas qu'on puisse vraiment considérer ça comme le sud. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on se concentre toujours sur la Californie, New York, ce genre de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. On en parlera tout à l'heure. Concernant ta vie universitaire, je pense que c'était la première fois du coup, que tu avais étudié aux États-Unis par rapport à ton école de commerce. Ouais. C'est quoi les choses que tu as trouvées surprenantes ?
La première chose, c'est qu'on a été obligé de vivre dans les dortoirs à l'américaine.
Ouais.
Donc les fameux dorms que tu vois partout dans les séries et dans les films. Nous on était un peu partagés sur la question parce que enfin, je sais plus quel âge on avait à l'époque, 24 ans ou quelque chose comme ça, enfin bref, on est tu vois, on a quasiment fini l'école, on a quasiment fini notre bac plus 5, ça fait 5 ans qu'on vit plus chez nos parents, ça fait 5 ans qu'on vit en appart, et là en fait tu te retrouves à aller vivre dans un dortoir avec des premières années, quoi.
Ouais.
Donc ça, tu vois, ce serait vu comme un super point par beaucoup. Nous, on n'était pas hyper chaud, quoi. Ça veut dire que tu dois partager une salle de bain avec trois autres personnes, donc des gens qui n'ont jamais vécu seuls, tu vois, notamment. Donc, bref, ça, c'était un truc. Ça, c'était la partie qui était pas forcément hyper agréable dans l'échange. La deuxième partie où je dirais que c'était assez différent de ce que tu peux voir dans les films ou les séries, c'est que, bon, étant dans le sud. On était sur un campus qui était quand même laïque, mais je crois que c'était quand même financé par des églises et des trucs comme ça. Donc, tu as quand même un discours religieux permanent. Tous les gens sont hyper cathos, tous les gens sont hyper à fond sur la religion, tous les gens sont très prudes. Donc, c'est très, très loin de ce que tu vois dans les films, dans les teen movies californiens.
Ah ouais.
Ça fait la fête partout, ça picole à 18 ans alors que tu n'as pas le droit. Non, non, là, c'est couvre-feu, c'est les mecs d'un côté, les nanas de l'autre. C'est,
ah ouais.
Si tu veux emmener une nana dans ta chambre, c'est couvre-feu 21h et faut que t'aies la porte ouverte. Enfin voilà, hein, on est quand même sur un truc très très strict. Et moi, quand j'en parlais avec des amis qui étaient en échange en Californie, on n'avait pas du tout la même, la même vie à ce niveau-là, quoi.
Ah ouais, c'est super intéressant ça.
Ouais, alors ça c'était vraiment hyper particulier. Et c'était pas comme ça, je sais que c'est pas comme ça dans toutes les universités du Sud, tu vois, mais. C'était le cas pour la mienne, et je ne le savais pas avant d'y aller. Bon, pas que ça m'ait beaucoup impacté, hein, tu vois, au final, on était pas mal d'internationaux, donc on traînait entre nous, on traînait avec d'autres Américains qui n'étaient pas forcément hyper pour ce système d'oppression, entre guillemets.
Mm-hmm.
Mais ouais, ça, c'était quand même radicalement différent. On s'est retrouvés... avec les premières années, parce que tu es traité comme les premières années quand tu es un étudiant international. Mm-hmm. On s'est retrouvé avec les premières années dans les premiers amphis, tu sais, de découverte où ils t'expliquent ce que c'est que le college à l'américaine, tu vois.
Ouais.
Et tu te retrouves à faire la prière avant le début du truc, quoi.
Ah ouais, et c'était une université privée ou publique?
Privée, je pense. Bah, elles le sont toutes, en fait.
Dans le sud? Enfin, certaines sont des universités d'État.
Ouais, non, c'était pas une université d'État, non. Donc privé, ouais, effectivement.
Ok.
Ouais, ouais. Et là, tu te retrouves à faire t'es dans un amphi où, je sais pas, il doit y avoir 1500 personnes. Mm-hmm. Et t'as tout le monde qui a la tête baissée, silence de mort, et c'est la prière, quoi. Et ça se termine par Amen. Et toi, tu viens de France, pays laïque où, bon, moi après, personnellement, je suis athée, j'ai aucun jugement par rapport à une religion, mais ça fait drôle, quoi.
Ouais, c'est surprenant.
Donc ça a été vraiment un gros choc. Sinon, je peux te parler plus du côté académique. J'ai continué dans des trucs de marketing, de business et tout ça. Et bon, je vais être hyper biaisé parce que j'ai pas payé les frais de scolarité ahurissants qu'ils payent aux États-Unis. J'ai payé mon école en France, qui est déjà très cher, mais ça reste quand même moins cher que ce que peuvent représenter les coûts ici. Je pense que c'est le meilleur enseignement académique que j'ai reçu de ma vie. Je pense que j'ai reçu un cours de marketing en 6 mois. Qui au bout de 2 heures de cours m'apprenait plus que ce que j'avais appris en master.
Ah ouais.
Ouais, hallucinant. Une qualité, une excellence d'éducation que j'ai rarement vue, enfin que j'ai jamais vue ailleurs, en fait.
Et tu penses que, vu où tu es aujourd'hui, cette année que tu as passée aux États-Unis a eu un impact important pour les connaissances que tu as acquises? Pas que ce soit indispensable, mais que ça ait pu avoir un impact particulier.
Ouais, en fait, ça a eu un impact sur plusieurs points de vue, c'est-à-dire que ça m'a appris, notamment dans le commerce, ça t'apprend une façon beaucoup plus américaine et anglo-saxonne de faire du commerce, donc plus direct, plus agressive et aussi beaucoup plus assumé, rapport à l'argent, à la rentabilité, à ce genre de choses-là, beaucoup plus assumé. Ce qui fait que là, on va rentrer dans des trucs hyper techniques de commerce et tout ça qui sont pas forcément hyper intéressants, mais ça m'a plutôt appris une vision et ça, j'ai trouvé ça bénéfique pour moi, ouais. L'autre point, ça a été aussi de me rendre compte que finalement, ce que j'apprenais en France, c'était pas une fin en soi et que, en fait, il m'en restait des caisses et des caisses à apprendre, quoi. Et que même si j'avais l'impression d'arriver au bout de mes études, j'étais pas arrivé au bout de mon éducation, entre guillemets. Je sais pas si c'est clair, mais...
Ouais.
Mais voilà, en gros, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de choses à apprendre, quoi.
T'as eu des retours sur d'autres personnes de ta classe qui sont parties dans d'autres états ou peut-être même d'autres pays qui ont pu comparer avec ton expérience?
De façon générale, j'ai souvent entendu, que ce soit aux États-Unis ou dans la plupart des autres pays, en fait, que l'éducation qu'ils recevaient dans ces universités partenaires-là était souvent beaucoup plus dense que ce qu'on reçoit en France. Pas forcément de meilleure qualité ou tout ça, mais en fait, le format est très différent. Moi, je me rappelle que mon cours de marketing aux États-Unis durait 45 minutes.
Mm-hmm.
J'avais 45 minutes 3 fois par semaine. Donc, ouais. C'est des formats qui sont hyper courts. Et quand j'avais cours en France, dans mon école de commerce, c'est des cours de 3 heures. Même si t'es passionné, au bout d'une heure et demie, tu décroches, c'est pas possible, t'es sur ton ordi, tu vas sur Facebook et laisse tomber, quoi. T'es terminé, quoi.
C'est clair.
Alors que 45 minutes, tu vois, c'est hyper dense, c'est hyper direct. T'apprends le truc, t'écoutes tout le cours, tu le bosses un petit peu chez toi, tu vas aller lire quelques ressources. Et au final, t'as vachement plus appris, c'est vachement plus sain que de perdre 3 heures, entre guillemets. Parce que bon, sur 3 heures, c'est le cours. Meilleur des cas, le cours t'intéresse et tu suis une heure et demie. Pire des cas, le cours t'intéresse pas et tu passes 3 heures assis sur ta chaise, quoi.
Et vu les conditions un peu particulières du coup de ton université qui était très chrétienne, est-ce que tu as pu avoir une certaine vie de campus quand même?
Alors j'ai eu une chouette vie de campus parce qu'on était, comme je te disais, on était avec pas mal d'étudiants internationaux et quelques Américains qui étaient un peu en rejet de ce système-là. Donc ouais, nous on sortait assez souvent, on allait dans les bars du coin, on allait écouter des concerts dans les bars à côté, etc. Faut savoir aussi que Nashville, c'est une ville où si t'as pas de bagnole, tu te déplaces pas, quoi.
Ouais.
Tout est très très loin, tout le monde a une voiture, en fait. Et quand t'es un étudiant international, t'as évidemment pas de voiture. Donc à chaque fois que tu te déplaces, c'est des Uber ou bien tu marches une demi-heure ou des trucs comme ça. Donc nous on faisait beaucoup des trucs comme ça, mais bon, c'était forcément limité parce qu'on n'avait pas de bagnole et que des Uber tu peux pas t'en payer 2 par jour, c'est-à-dire un pour y aller, un pour rentrer, c'est pas une dépense qui est viable, quoi. Donc nous on sortait assez souvent et j'ai des amis, tu vois, à qui je parle toujours de cette université là donc j'ai créé des liens et tout ça. Après, une vie de campus en tant que telle, nous on a toujours trouvé qu'en fait la vie de campus elle était un peu enfantine, un peu trop niaise, et on avait du mal à rentrer dedans. c'est la religion dans le sud, c'est quelque chose qui est hyper ancré dans les mœurs. C'est pas comparable avec la religion comme t'as en France. Une des premières, il y avait quelqu'un que j'avais rencontré sur le campus qui était hyper catho. Et un jour, il me voit dans les couloirs, il me demande comment ça va. Donc je lui réponds, je lui dis, bah, ça va, et toi, comment ça roule? Et il me répond un truc du style, ah ouais, bah, je suis en train, là, tout va très bien, je suis en train de traîner avec Jésus-Christ dans ma tête, donc tout va nickel, quoi.
Ah oui.
Et tu sais, t'entends ça, et tu te dis, waouh, ok, quoi. Enfin, c'est genre jusqu'à ce point-là, quoi.
Ah ouais, on est sur quelque chose de très différent du Nord.
Ouais, exactement. Et puis, tu vois, la plupart des gens sont dans des églises et ils s'impliquent énormément dans leur église. Donc, c'est là-dedans qu'ils vont avoir tout leur réseau et compagnie. Et nous, on n'était pas du tout dans ce délire-là. Donc, c'est sûr que nos relations étaient limitées. On a été à quelques house parties, donc les soirées, tu sais, dans les maisons.
Ouais.
Avec les fameuses Red Cup, enfin, ce que tu vois dans les séries américaines. Mmh. Que nous, on a toujours trouvé un petit peu décevant parce que c'est rempli de gens qui ont entre 18 et 20 ans, qui sortent jamais, qui sortent une fois par mois, tu vois, donc qui ont tendance à aller sur la boisson de façon assez forte. Il faut savoir aussi aux États-Unis, et ça c'est très strict, surtout dans le Sud, que si t'as pas 21 ans, tu peux pas acheter de l'alcool.
Ouais.
Dans le Sud, ils demandent ta carte d'identité absolument partout, c'est-à-dire même ton père, même tes grands-parents, ils vont lui demander la carte d'identité, donc il n'y a vraiment aucun moyen. Donc quand on allait, nous, dans ces soirées-là, en fait, c'était rempli de gens entre 18 et 20 ans qui boivent jamais et qui, là, sautent sur l'alcool, quoi.
Ouais, j'ai connu ça aussi, même à New York.
Ouais, exactement. Donc terrible. Tu vois exactement ce que je veux dire, où ça tourne un peu glauque, quoi.
Ouais.
Donc, ouais, au final, on a décidé de se sortir un petit peu de ce truc-là. On s'est dit, on va aller en cours parce que c'est intéressant, parce que c'est cool. On va traîner sur le campus parce que le campus est génial et on va traîner avec les gens qu'on aime. Mais bon, pour toute la partie, entre guillemets, profiter et faire la fête, on va le faire entre nous, quoi.
Ouais, je comprends bien. Je pense surtout qu'à Nashville, il doit y avoir de quoi faire.
Ah oui, oui, il y a de très bons bars, ça joue, il y a de la musique partout, c'est génial, ouais.
Et donc, c'est dans cette université que tu as rencontré ta femme, avec qui tu es aujourd'hui. Je pense que le dating, c'est quelque chose qui fait quand même aussi partie de la vie de campus américaine, ou du moins la vie de jeune américain. Ça serait quoi, selon toi, les grosses différences du dating à la française et à l'américaine ?
Alors, je ne l'ai pas rencontré sur le campus. La façon dont je l'ai rencontré, elle est assez drôle. C'est qu'en fait, on était tous sur Tinder. Mm-hmm. On n'était pas sur Tinder pour rencontrer du monde. On était sur Tinder parce que on faisait une collection de captures d'écran de toutes les nanas qui posent avec soit des armes, soit des animaux morts sur leur photo de profil. Parce que ça nous faisait marrer, parce que c'est un truc que tu ne vois pas en France. Et on s'est dit, putain, on est bien dans le sud des États-Unis, c'est America, c'est voilà. Et en fait, c'était ça, quoi. On avait tous Tinder pour ça, mais voilà, on n'avait aucune... Enfin, voilà, rien de sérieux. Et sauf que j'ai matché avec donc cette personne qui est aujourd'hui ma femme, avec qui on a discuté et on a fini par se rencontrer et tout ça. Mais voilà, donc ça vient d'un truc qui a complètement rien à voir à la base.
Ça, c'est marrant.
Les grosses différences entre le dating, c'est... Alors, ça va être assez compliqué à exprimer correctement. C'est qu'il y a une culture en France du aller boire un café, aller boire un verre. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais c'est assez facile entre guillemets d'aller proposer à quelqu'un, viens, on va boire un verre. C'est l'excuse pour aller discuter. Ici, c'est pas vraiment le cas en fait. Aux États-Unis, c'est pas vraiment le cas. Il y a pas cette culture là. Donc en fait, si tu veux rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, il faut une raison. Du type, on va au cinéma pour aller voir ce film. On va voir une expo parce que bah, c'est chouette d'aller voir des expos. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une raison, quoi. Donc moi, quand j'ai commencé à débarquer, à dire bah, tiens, on va aller boire un verre dans le bar du coin, elle était en mode ouais, ok, enfin c'est bizarre, quoi.
Ouais.
Enfin tu veux aller boire un verre, pourquoi ? Enfin c'est le bar en question est bien. Non, j'en sais rien. C'est juste voilà, il faut qu'on viens, on va boire un verre, quoi. Mm-hmm. Ça, c'était le premier truc qui était le premier choc culturel entre guillemets, qui passe pour un détail, mais qui en réalité n'en est pas tant un que ça, parce que trouver des raisons pour sortir, pour voir du monde, ben en fait, c'est très épuisant.
Et je pense aussi que ça marche dans l'autre sens, dans le sens où par exemple, bon là, forcément, c'est sur Tinder, donc c'est assez clair, mais des fois, pour certaines personnes qui se rencontrent et qui vont dire « tu veux aller au cinéma », ça va s'avérer être un date, alors qu'on peut penser, quand on est français, que c'est juste aller au cinéma voir un film. Enfin, ou je sais pas moi, n'importe quel autre prétexte de sortie.
Exactement, ouais.
Donc le fait qu'il y ait ces prétextes-là qui ne sont pas forcément définis, ça peut prêter à confusion.
Ah, ouais, complètement. Ouais.
Pour avoir été dans cette situation où on se retrouve à sortir, faire un truc où c'est juste innocent, mais en fait c'est un date, on n'a aucune idée. Quoi.
Ouais, j'ai eu ce cas-là avec un mec du campus, figure-toi.
Ah ouais.
Un mec du campus qui est venu discuter avec moi et qui m'a proposé de... Je crois juste d'aller manger un truc ou tout ça. Et en fait, il s'est avéré que le truc, c'était complètement un date. Et moi, je ne l'avais pas vu du tout, quoi. Voilà, donc pareil, gros malaise. Surtout qu'en plus, je suis pas intéressé par les mecs. Mais ouais, exactement. Ouais. Ou genre, vraiment, quand tu te rends compte que c'était un date et qu'on t'engueule parce qu'en gros, tu n'as pas compris que c'était un date, c'est... Enfin, tu comprends pas l'idée, quoi. Ouais, donc ça, c'est un vrai premier point. Le deuxième point, ça a été que notre premier date, moi, j'ai senti qu'il y avait beaucoup moins de feeling qu'en France.
Ouais.
J'ai senti que c'était une phase de test, quoi. C'est-à-dire, on se voit et en gros, elle va me poser des questions et en fonction de mes réponses, elle va décréter ou non si on va se voir une prochaine fois ou non.
Ouais. Il y a presque cet aspect un peu entretien d'embauche, quoi.
C'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu entretien d'embauche, c'est-à-dire on va voir si t'es suffisamment bon pour qu'on continue à entretenir la relation ou si c'est pas la peine et en gros qu'on coupe maintenant. J'ai pas vraiment d'avis pour dire si c'est bien ou pas bien. Moi, je pense qu'il y a des bons côtés dans le sens où bon, ça te permet d'éviter de perdre du temps, soit hein, de au moins tu sais t'es fixé au bout d'un rendez-vous si c'est la peine de continuer ou non.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'était très particulier et que à la sortie du premier date. Moi, je me rappelle que j'avais pas le sentiment d'être hyper emballé. Et je me disais, tiens, j'ai l'impression qu'elle m'a pas aimé, j'ai l'impression que ça a pas accroché, il y a pas eu vraiment de feeling, c'était hyper codifié, ça allait pas. Et en réalité, on est parti sur un deuxième rendez-vous. Et tu vois, aujourd'hui, on est mariés, donc j'imagine que ça s'est plutôt bien passé. Tu vois. mais ouais, c'est marrant parce que j'avais pas vraiment cette sensation-là. Ouais.
Et ensuite, donc après ça, il y a encore tous les autres codes. Bon, par exemple, continuer à aller plusieurs dates. Et je sais que certaines personnes vont aller à plusieurs dates avec plusieurs personnes. Avant de définir, alors quand il y a quelqu'un avec qui on va à des dates et quelqu'un avec qui on est en couple, c'est encore différent. Il y a ces choses-là qui t'ont perturbé aussi.
Ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a eu le moment qui est très connu ici, qu'on appelle le DTR, donc pour Define the Relationship. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en gros, c'est la grosse discussion de savoir, ok, on se voit régulièrement, est-ce qu'on est en couple ou non, et en gros, c'est quoi les règles. Et en fait, juste, enfin, tout ce qui s'est passé avant ce moment-là ne compte pas comme du couple. En France, par exemple, tu vas voir quelqu'un régulièrement et en fait, de façon un petit peu naturelle, tu vas te définir en couple avec cette personne-là sans avoir cette conversation ultra formelle, presque de signature de contrat, de dire « Ok, maintenant, on est officiellement en couple.
Ouais. »
Et à partir de maintenant, je ne vais plus en date avec quelqu'un d'autre, etc. Donc moi, ça, je ne le savais pas. Donc la conversation super formelle, quand tu n'es pas au courant, ça te fait hyper drôle. Tu te dis « Ben non, on ne peut pas y aller juste au feeling. » C'est bizarre.
Ouais.
Mais c'est là que toutes les règles sont posées. Donc encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors oui, tu chasses le naturel, mais la contrepartie, c'est que tu gagnes énormément en clarté et tu n'es pas dans cette situation-là de « Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on n'est pas en couple? Est-ce que... » Voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je savais pas que quand tu allais en date régulièrement avec quelqu'un, cette autre personne pouvait dater n'importe qui d'autre. Donc ça, c'était une découverte aussi.
Ouais.
Ce qui, j'imagine, en réalité, tout est OK, parce qu'à partir du moment où tu arrives à ce moment de DTR, c'est là où tu décides que non, à partir de maintenant, ça n'est plus acceptable, tu vois. Mais t'as pas, en fait, cette clarté de contractuelle que t'as en France. Et donc... C'était assez marrant parce que quand on avait cette discussion-là, ma copine à l'époque me disait « ça va parce que t'as pas l'air d'être hyper enjoué quand même qu'on soit ensemble tous les deux, enfin, t'as l'air d'être assez réticent à tout ça, qu'est-ce qui t'arrive et tout ?» Et j'ai dû expliquer que bah non, je suis pas du tout réticent, c'est juste que c'est une conversation qui est hyper bizarre pour moi, quoi.
Ouais.
Donc je sais pas à quoi m'attendre, enfin c'est... Voilà, donc ça a été aussi une assez grosse différence entre les deux pays, ouais.
Je peux bien imaginer, ouais. Et t'as eu quoi comme autre type de difficulté? Donc maintenant que tu étais en couple, est-ce qu'il y a eu des types des difficultés comme par exemple la barrière de la langue, des différences culturelles qu'on peut être surprenantes pour toi?
Barrière de la langue, Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, je parle couramment anglais, mais bon, c'est quand même pas ma langue natale. Donc en fait, parfois, je vais utiliser des mots qui sont connotés sans le savoir. Ou parfois, je vais voir des connotations sur certaines phrases qu'elle utilise qui, en fait, n'ont pas lieu d'être. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de disputes qui étaient liées à des problèmes de communication qui sont, entre guillemets, complètement cons. C'est-à-dire que c'est littéralement des problèmes de niveau de compréhension de la langue, quoi. C'est-à-dire, moi, d'un côté, je vois des messages qui n'existent pas, et elle, de son côté, voit des connotations à des choses que je dis parce que j'ignore que les choses que je dis ont une connotation. Donc c'est complètement ridicule et en fait tu te retrouves à t'embrouiller et à la fin de la dispute c'est ouais bah en fait on arrête. Enfin c'est complètement ridicule quoi en fait.
Bien
Enfin,
sûr.
c'est les intentions sont pas là derrière. Ouais. Donc ouais la barrière de la langue ça joue beaucoup. Les différences culturelles. Non, pas particulièrement. C'est les modes de vie sont assez similaires. Je dirais que peut-être pour revenir à la nourriture, t'as beaucoup moins une sacralisation du repas. Alors ça paraît stupide, mais par exemple, le fait de manger ensemble, c'est un truc qui est très français, c'est pas un truc qui est américain du tout. Donc moi, c'est déjà arrivé, par exemple, que j'attende ma femme à la maison qui rentrait du travail pour manger, et elle, quand elle arrive à la maison, que moi j'ai préparé à manger, elle me dise, ah ben non, j'ai mangé un truc sur la route, j'avais faim, quoi.
Je
Donc toi, tu
vois.
te retrouves à avoir fait à manger, à te dire, on va passer un super moment ensemble, on va discuter, et elle qui fout tout à la poubelle en te disant, bah non, j'avais faim, laisse tomber, et si tu t'es affamé en m'attendant, c'est pas de ma faute, quoi. Et donc ça, voilà, c'est une différence entre les deux. Il n'y en a pas d'autres vraiment qui me viennent, parce que je pense qu'il n'y en a pas tellement d'autres. Oui, il y en aura forcément, mais je veux dire, c'est des choses qui sont assez mineures, et en discutant 2 minutes, tu règles le problème, tu règles le conflit.
Ouais, je vois bien. Et donc après ça, du coup, tu as dû rentrer en France et commencer une relation à distance. Tu m'as dit à peu près un an. Ça s'est passé comment au niveau des allers-retours entre les États-Unis et la France, etc.? Est-ce que ça a posé problème à la douane, par exemple?
Problème à la douane, oui et non. C'est-à-dire que à chaque fois que je venais, en gros, je venais tous les 2 mois, j'allais de Paris à Nashville tous les 2 mois et je restais 3 semaines. Donc j'arrivais à chaque fois par Atlanta, aéroport que je connais par cœur maintenant, mais sur le bout des doigts. Si tu veux, quand tu sors d'un J1 où tu es resté 6 mois aux États-Unis et qu'ensuite tu. Il faut savoir qu'en fait, en tant que touriste, tu as le droit de venir aux États-Unis 3 mois sans problème. Mais qu'au-delà de 3 mois cumulés, ils peuvent continuer à te faire rentrer sur le territoire, mais en gros, ils sont suspicieux. Tu es évidemment hyper traqué, tu vois, entre le système d'ESTA et compagnie. Enfin, ils savent en gros si tu dépasses les limites ou non.
Oui, bien sûr. Puisque l'ESTA est valide 2 ans, je
Ouais.
suppose que tu pourrais très bien rester 3 mois, rentrer quelques jours et y retourner 3 mois à ce moment-là.
Exactement, ouais. Et tu peux rester, je crois, 6 mois au total. Enfin, faire 2 fois 3 mois. En gros, à partir du moment où tu passes moins de 6 mois, il me semble, t'es OK. Mais au-delà de 3 mois, ils commencent à te poser des questions, quoi. Donc, moi, première à la douane, problème à la douane, non. Première fois, sans problème, tu rentres. Bon, t'as les questions habituelles de pourquoi vous venez, vous faites quoi, vous restez combien de temps? Donc, bon, tu réponds assez facilement. Par contre, la deuxième fois où je suis venu, le premier truc que m'a dit le mec de l'immigration, il m'a dit, vous êtes la seule personne française que je vois aller à Nashville. Pourquoi est-ce que vous allez à Nashville? Et donc là, il commence à rentrer dans un interrogatoire un peu plus complexe. Donc il me demande où est-ce que je reste pour dormir. Donc je lui explique que je reste chez un ami, enfin un ou une amie, tu sais, a friend, mais le truc n'est pas genré en anglais.
Pratique.
Et là, il commence à sortir plein de questions pour essayer de déterminer le genre de cet ami. Donc il continue à pousser pour savoir en gros si c'est un mec ou une nana. Et ça, je t'assure que c'est assez compliqué quand tu t'exprimes dans une langue qui n'est pas la tienne. Après, t'as tapé 7 heures d'avion.
Surtout,
Tu galères un petit peu à trouver tes mots. Dès que tu commences un petit peu à tourner autour du pot, on t'engueule et on te coupe la parole en te disant réponds à la question. Donc c'est un petit peu intimidant. Donc voilà, ça a été la deuxième fois. Ah oui, j'ai oublié tout ce passage-là. Ça a été compliqué aussi. Ça a été le mec m'a demandé quel était mon job. Donc à l'époque j'étais freelance. Je suis toujours freelance d'ailleurs. Donc en gros il me demande quels sont mes revenus. Donc, bon, question hyper bizarre quand t'es français. Je donne mes revenus et le mec me demande en gros, prouve-moi que t'as suffisamment d'argent pour vivre là aux États-Unis pendant 3 semaines. sans avoir à travailler.
Ah ouais.
Je commence à sortir mon téléphone. Évidemment, le téléphone est interdit pendant un entretien comme ça. Elle me dit, non, t'as pas le droit de sortir ton téléphone. Trouve une autre manière de me le prouver. Et donc, je lui ai montré que j'avais plusieurs cartes bleues, que c'était des cartes bleues, pas d'interdit bancaire, mais des cartes, enfin, tu sais, des visas premiers et compagnie, des cartes que tu payes un peu cher, ou des cartes internationales, entre guillemets. Mm-hmm. Enfin, voilà, tout un micmac où tu te dis, tout ça pour ces 3 semaines, quoi. Après cette relation à distance, ma femme est venue vivre avec moi et à Paris, et elle est restée un peu moins d'un an. Et après ça, je suis allé avec un visa touristique de retour aux États-Unis pendant 3 mois. Mmh. Et donc là, j'ai dû passer l'immigration où je devais dire que je restais 3 mois aux États-Unis. Et là aussi, j'ai eu des problèmes à l'immigration où, au moment où on m'a demandé combien de temps est-ce que vous restez, j'ai répondu 3 mois. Et la réaction première du mec, ça a été de demander pourquoi vous restez aussi longtemps. Et donc là, j'ai dû expliquer que je venais avec, que j'étais avec ma femme, que j'allais rencontrer, enfin que j'allais rester chez sa famille et tout ça. Donc là, j'ai également eu droit aux questions par rapport à l'immigration, si j'avais commencé les démarches, si à quel niveau de démarche j'étais. Et le mec m'a bien fait comprendre, à la fin du séjour, il faut que tu t'en ailles, ne reste surtout pas. Mmh. Il m'a dit, tu vas te griller. Voilà. Donc ça, c'était en gros terminé comme ça mes passages avec avec les frontières. Donc globalement, je pense que ça aurait pu être plus compliqué, mais ça n'a pas été facile pour moi, non. Voilà.
Parce que du coup, même si c'est légal d'avoir une carte verte après t'être marié, c'est vrai qu'eux, ils vont tout faire pour éviter au final que tu... Enfin, s'ils ont un doute que tu vois quelqu'un aux États-Unis, ils vont se douter que tu vas vouloir te marier et ils vont essayer de, pas forcément de t'en empêcher, mais au moins de l'identifier, quoi, c'est ça?
C'est exactement ça. En fait, le mariage, c'est la façon la plus simple d'obtenir la green card. Donc c'est le moyen le plus utilisé, donc c'est évidemment la méthode par laquelle il y a le plus de fraude. Donc évidemment, quand tu arrives face à un agent d'immigration et qu'il t'explique que t'es marié à une américaine, lui dans sa tête, tout ce qu'il voit c'est une statistique de voir que 70% des mariages c'est du bidon. Mm-hmm. Et donc il tente un petit peu de t'en dissuader, ouais.
Et donc si on repart sur cette green card, ça s'est passé comment ce parcours du combattant? Parce que du coup, quand tu as été aux États-Unis la première fois, tu as dit que même si tu étais déjà marié, tu es quand même venu avec un ESTA, c'est ça? Puisque tu es resté 3 mois. Ou peut-être un visa fiancé, je ne sais pas.
Ouais.
Donc,
un ESTA.
Combien de temps est-ce que ça a pris? Quelles ont été les différentes étapes? Qu'est-ce que ça a été ce parcours de combattant?
Alors, parcours du combattant, alors plein d'étapes. La première, c'était une fois que j'ai été marié, ça a été de voir comment est-ce que ça se passait pour obtenir ta green card. Donc là, t'es confronté à une multitude de visas, à une quantité d'informations énorme. Donc en gros, mon premier avis sur la question, c'était de me dire, ok, je vais faire un visa K1, comme ça je peux avoir un K3, et comme ça au bout de 2 ans, je peux avoir un CR1. Donc tu vois, c'est pour donner une idée de ça n'a pas l'air simple, quoi. La première idée, c'était de partir sur un visa fiancé que tu as le droit de demander quand tu es marié, parce que ça a l'avantage d'être processé de façon assez rapide et de donc te donner le droit d'être sur le territoire américain rapidement. Mm-hmm. Mais l'objectif, c'était d'obtenir un visa d'époux. Donc là, on parle d'un K3. K3 qui, par ailleurs, n'existe plus, même s'il est toujours référencé sur les sites du gouvernement et les sites de l'immigration. Donc ça, c'est aussi une des grosses difficultés de ce parcours du combattant de la green card, c'est qu'en fait, tu dois aller démêler le vrai du faux. Et que parfois, même les sites officiels font exprès, entre guillemets, de ne pas être totalement à jour. Donc ils mentent pas, mais ils te donnent pas la vraie vérité. Mmh. Donc en fait, la façon dont ça s'est passé, c'est que j'ai rempli un visa d'époux. Le visa d'époux, il met un très long moment avant d'être processé. En général, ça, tu envoies le formulaire et le formulaire et les dossiers, et t'en as pour 8 à 12 mois, il me semble. Mm-hmm. Et en fait, moi, j'ai fait mes 3 mois aux États-Unis pendant cette période-là, pendant ces 8 à 12 mois. Je crois que ça faisait 2 mois que j'avais envoyé le dossier et je voulais partir aux États-Unis avec ma femme pour rester un petit peu avec elle pour 3 mois. Et en fait, il se trouve que j'ai reçu par courrier le fait qu'ils aient accepté mon visa au bout de 4 mois. Donc, bien plus court que prévu. Et une fois que ça, en fait, ce passage-là, cette étape est validée, tu as le droit de demander ta green card. Et là, tu as deux possibilités. Soit tu n'es pas aux États-Unis et tu fais ce qu'on appelle le consular processing, donc c'est là où tu vas aller faire le reste de tes démarches à l'ambassade américaine en France, donc du coup à Paris. Soit tu fais ce qu'on appelle l'adjustment of status, qui correspond en fait au fait que tu es sur le territoire américain au moment où tu remplis ton dossier. Et en gros, tu fais passer ton visa de non-immigration à un visa d'immigration. La seule difficulté dans ce truc-là, donc moi j'ai choisi l'adjustment of status parce que j'étais déjà aux États-Unis, la difficulté dans ce truc-là, c'est que le visa, l'ESTA, c'est pas réellement considéré comme un visa de non-immigration. Et que, en fait, ça peut être vu comme, comme une fraude à l'immigration que de faire un adjustment of status sur un ESTA. Parce qu'en gros, sinon ce serait trop facile, tu remplis les papiers, au bout de 6 mois, tu pars 3 mois aux États-Unis et tu sais que ton truc va être accepté pendant cette période-là. Et en fait, la seule façon dont ça peut être accepté, c'est s'il se passe un événement marquant dans ta vie, du type on t'a demandé en mariage, tu as une opportunité de travail ou quoi que ce soit. Moi, pour me défendre de ce truc-là, j'avais comme option de dire le temps de processing était de 4 mois au lieu d'être de 8 mois. Donc en fait, j'avais pas pu prévoir que j'allais être aux États-Unis au moment où ça allait être accepté. Donc bref, je me lance dans cette procédure de adjustment of status. Donc là, c'est encore plus de paperasse, hein, le formulaire est encore plus long, tu dois fournir des preuves de revenus financiers de ton sponsor. Donc ton sponsor par défaut, c'est ta femme. Si elle ne fait pas assez d'argent, tu dois avoir un co-sponsor. Et donc là, il faut fournir toutes les déclarations d'impôts, toutes les fiches de paye sur les 4-5 dernières années de cet autre sponsor. Enfin bref, c'est énormément de papier. Je crois que de mémoire, on avait envoyé quelque chose comme 100 de pages.
Waouh.
Par la poste pour ce dossier-là. Ouais, c'est très long. Et ensuite, pendant cette période-là, tu as un premier rendez-vous où tu dois aller faire ce qu'on appelle les biometrics. Donc c'est là où on va aller te prendre en photo, scanner tes empreintes digitales, en gros, pour aller comparer avec la base de données du FBI pour voir si t'es pas un criminel de guerre. J'exagère à peine, mais c'est ça.
Ouais.
Entretien terrible, t'es parqué, t'es traité comme du bétail, on t'engueule dans cette administration-là, c'est horrible, franchement. Et ensuite, la dernière étape après ça, c'est la fameuse interview. Et là, en gros, t'es face à je pense que techniquement, c'est un procureur. Je sais pas exactement qui c'est que t'es en face. Un agent de l'immigration, on va dire. Et t'es là avec ta femme. Et en gros, leur mission, c'est d'essayer de savoir si ta relation est réelle. Et si en gros ton dossier est OK. C'est-à-dire, en gros, c'est le truc qui va déterminer la décision finale de savoir si oui ou non t'as le droit à une green card. Et une fois que ça s'est passé, tu reçois ta green card par la poste au bout de 3 mois maximum, je crois. Donc voilà, c'est beaucoup d'étapes et c'est surtout un très très long process. Moi, si je prends depuis le tout début, le process a duré 1 an et 3 semaines. Et encore une fois, la green card par le mariage, c'est le plus rapide. Et j'ai eu énormément de chance. Tout a été processé beaucoup plus vite que ça aurait dû à chaque fois. Et bon, même si ça va être horrible et ultra cynique quand je vais le dire comme ça, je viens de France, je suis blanc, enfin voilà, je correspond ouais, à des critères, on va dire, américains hyper privilégiés, quoi. Je suis hyper privilégié à ce niveau-là. Donc je pense que ça a eu énormément d'influence aussi sur le fait que ça ait pris 1 an et pas 4, quoi.
Ouais. Il y a des raisons particulières, outre l'argent que ça coûte, de ne pas avoir pris un avocat
L'argent, ça a été une grosse part quand même, parce que un avocat spécialisé en immigration, c'est quelqu'un qui va te prendre entre 1500 et 5000 dollars, quoi.
Ouais.
Donc c'est quand même pas rien. Il faut savoir que les formulaires que t'envoies et tout, aussi le fait que tu dois faire traduire tous les documents que t'envoies en français. Donc par exemple, ton acte de naissance, il faut que tu le fasses traduire par un avocat. Ça coûte 40 euros. Toutes ces choses-là, ça a déjà énormément de coûts. Moi, je pense que sans avocat, ça a dû me coûter quelque chose comme 2 000-2 500 dollars.
Ah ouais, quand même.
La totalité des démarches. Donc, c'est beaucoup d'argent déjà. Donc, rajouter par-dessus ça 2 000 dollars, pour moi, ça me semblait beaucoup trop d'argent déjà. Et ensuite, la deuxième chose, ça a été de savoir est-ce que c'est réellement nécessaire. C'est-à-dire que on avait fait tellement de recherches tous les deux à voir comment est-ce que ça se passait, à comparer toutes les sources qu'on pouvait et tout ça, qu'à un moment donné, on était à un niveau de connaissance sur la question où on se disait, finalement, qu'est-ce qu'un avocat peut nous apporter de plus ?
Ouais, ça a du sens.
Donc voilà, ça a été un petit peu ça, la réflexion, en fait. J'ai passé un coup de téléphone à un avocat que j'ai payé parce que j'avais une question hyper précise à un moment donné. Et là, quand tu es face à des questions vraiment super précises comme ça, bah, tu n'as pas vraiment d'autre choix que de te consulter avec un avocat. Donc je l'ai fait, ça m'a coûté cher, hein. Ça m'a coûté $90 les 15 minutes. Donc, bon, autant te dire que voilà. Et puis là, c'est absolument terrible parce que j'ai eu un double discours, c'est-à-dire que j'ai à peu près eu la réponse à ma question, mais pas trop. Et on m'a aussi complimenté sur mes connaissances en immigration, donc j'étais assez fier de moi. Mais en même temps, l'avocat que j'ai eu au téléphone était clairement là pour me faire peur. Et pour m'expliquer que sans avocat, ça allait être compliqué et que j'avais beaucoup de chance à ce qu'on me refuse ma carte verte, quoi. Et donc, tu rentres un petit peu dans ce discours, tu sais, d'avocat, de on te fait peur pour que tu achètes la Presta, quoi. Qui, moi, me plaît pas.
Et donc, du coup, tu nous prouves bien que c'est possible. Et en plus, sur ton site internet, tu aides les gens à le faire. Donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard aussi. Mais ce qui est assez surprenant, c'est quand on voit à quel point c'est difficile... Et tu as même dit tout à l'heure, 70% des gens se marient, font des mariages blancs au final. Et il y a plein de gens qui pensent que le mariage blanc, c'est une bonne manière pour immigrer aux États-Unis. Alors déjà, qu'est-ce qui a été fait pour s'assurer que vous étiez bien en couple? Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ces mariages blancs? Alors, pas dans le sens est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais comment est-ce que c'est possible au final quand on voit à quel point c'est compliqué?
Alors, la statistique de 70%, je suis pas sûr de la véracité du truc, hein. Je dis ça comme ça, mais par exemple, les visas fiancés sont à 70% considérés comme faux. Mais enfin, c'est un vrai phénomène, quoi. Pour revenir sur le mariage blanc, en réalité, c'est sans jugement de valeur aucun, mais c'est la façon. Le mariage, c'est la façon la plus simple et la plus rapide d'obtenir une green card.
Ouais.
Donc, entre guillemets, moi, je comprends totalement la démarche d'aller payer un ou une citoyenne américaine pour te marier, pour jouer le jeu et pour faire ça. Moi, je comprends totalement la démarche. Après, tu sais, on rentre un petit peu dans ce discours moral de te dire « Oui, mais en fait, plus il y a des gens qui fraudent, et plus ça va être difficile pour les vrais couples d'obtenir leur green card, et ça va être long. » On est un petit peu dans ce truc du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que nous, ça a été très frustrant pendant qu'on faisait toutes ces démarches-là, de se dire qu'en fait, on devait faire toutes ces démarches-là parce qu'il y avait des gens qui abusaient le système.
Ouais, je comprends bien.
C'est assez difficile, tu vois, de dire, de pas éprouver de haine de haine, le mot est hyper fort, mais voilà, de dégoût
bien.
Et de mépris pour ces gens-là, parce que tu te dis, putain, tous ces efforts, tout cet argent-là, tout ça parce qu'il y a des gens qui ont recours à ces méthodes-là. Après, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas le choix, il y a des gens qui immigrent vers d'autres pays parce qu'ils sont dans des situations hyper précaires là où ils vivent, etc. Moi, c'est pas mon cas. Moi, tu vois, finalement, que je vive à Paris ou que je vive à New York, entre guillemets, c'est un petit peu pareil, je fuis pas la misère parisienne, tu vois. Sinon, ouais, pour répondre à ta question par rapport à ce qu'ils vérifient, nous, typiquement, ils te demandent tout ce qui peut prouver que tu es dans une véritable relation. Donc, nous, on est arrivé avec des quantités de trucs énormes. Tu vois, on a plein de photos tous les deux. On a fait des scrapbooks complets où on a raconté toute notre relation en photo. On a amené tous les mots qu'on a reçus à notre mariage de la part de nos amis. On a amené des screenshots de nos conversations par texto, des screenshots des quantités de fois où on s'appelait par FaceTime quand on était à distance. On a amené toutes les lettres qu'on s'est envoyées, toutes les lettres par la poste, tu vois. Donc, il y avait quand même un sacré volume qu'on s'envoyait tous les deux quand on était à distance. Tous les achats qu'on a fait tous les deux groupés pour l'appart dans lequel on vit actuellement. Enfin, toutes ces choses-là où... même l'agent de l'immigration, au moment où on était pendant l'interview, nous a dit oui, ok, j'ai aucun doute sur le fait que vous êtes amoureux tous les deux, quoi. Donc voilà, c'est un peu le genre de choses qu'ils te demandent. En gros, ils te demandent absolument tout ce que tu veux qui peut prouver que tu as une réelle vie commune avec la personne que tu prétends être ta femme ou ton époux.
C'est même à se demander comment c'est possible au final de faire un mariage blanc quand on voit tous les contrôles qu'il y a.
Disons que si tu fais un mariage blanc. Le contrat, entre guillemets, il dure longtemps, quoi, parce que ça veut dire qu'il faut que tu puisses habiter avec quelqu'un que tu n'aimes pas pendant un an, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des dépenses avec cette personne-là, il faut que tu crées toute une histoire. C'est quand même beaucoup de travail, quoi. Presque chapeau, hein, presque bravo pour arriver au bout. Hein.
Ouais, c'est clair. Est-ce que pendant l'interview, il y a des questions un peu étranges qu'ils ont pu vous poser? Par exemple, j'ai pu entendre des choses du type... De quel côté dort la personne ou ce genre de choses-là?
Moi, personnellement, on n'a pas eu ce genre de questions. Par contre, des questions étranges, oui. C'est-à-dire que l'agent d'immigration m'a dit dès le début de l'interview, si je m'adresse à votre femme, vous n'avez pas le droit de réagir, de répondre, de faire une grimace, rien. Mm-hmm. Vous devez rester impassible parce que je veux ses réponses à elle. Et une des questions qui, moi, m'a pas mal perturbé, c'est qu'elle a demandé à ma femme si, en gros, si je venais d'une situation misérable ou tout ça, si elle pensait que je me mariais, que je faisais tout ça pour obtenir l'immigration aux États-Unis. Donc bon, question somme toute assez classique. Puis elle a commencé à poser des questions, à savoir si j'avais pas un comportement manipulateur ou si j'étais pas ou si j'étais pas une personne mal intentionnée de cette manière-là, si j'avais déjà eu des comportements violents, ce genre de choses-là. Et je t'avoue que ça fait drôle quand on parle de toi comme ça juste devant toi,
Ouais, c'est perturbant.
et qu'on soupçonne que ça soit des choses que tu fasses alors que pas du tout, quoi. Donc c'est plutôt des questions comme ça qu'on a eues. Elle nous a demandé des dates, par exemple. Donc à quel moment vous êtes rencontrés, vous êtes mariés à quelle date, à quel endroit, il y avait combien de personnes à votre mariage, c'était quoi la réaction de vos amis, c'était quoi la réaction de vos parents, ce genre de questions-là. Mais finalement, assez peu de questions du type quelle est la couleur de la brosse à dents de votre partenaire, ou ce
Ouais,
genre de choses-là. Ouais.
je vois. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui n'est pas en couple avec une Américaine, ou qui est peut-être même déjà marié avec quelqu'un d'autre, ce serait quoi les autres moyens pour avoir une green card, puisque tu as étudié la chose? S'il y a d'autres pistes que tu as suivies avant que tu te maries, et s'il y en a d'autres que tu as trouvées après pour ton site internet, par exemple?
Il y a toutes les raisons qui sont liées au travail. En fait, il y a plusieurs façons d'obtenir une green card via le travail aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu exploré. C'est-à-dire qu'on te dit toujours, ouais, il faut que tu sois un docteur en je sais pas quoi ou ultra spécialiste pour obtenir une green card. Alors, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que c'est une des façons. Une autre des façons, c'est d'avoir une compétence clé qui serait directement profitable à la nation américaine. Donc ça va être des choses qui vont te toucher, par exemple, je ne sais pas, mais à la sécurité informatique ou ce genre de choses-là. Là, tu aurais moyen d'obtenir une green card. Une autre façon, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu remplis un... J'ai mon chat qui éternue à côté, excuse-moi. Ça fait énormément de bruit. À partir du moment où tu as des compétences qui sont voulues par un employeur américain et qu'un Américain ne peut pas remplir, tu peux potentiellement obtenir un green card. Je veux dire n'importe quoi, hein, mais admettons que ça soit un boulot même de serveur dans un restaurant, je dis n'importe quoi, hein, de serveur dans un restaurant, mais il n'y a aucune personne qui est capable de répondre à cette offre d'emploi sur le sol américain parce que, je ne sais pas, personne ne parle français couramment, par exemple, ou ce genre de choses-là, là, tu pourrais obtenir un green card, par exemple. C'est-à-dire que la façon dont ça se passe, c'est que en gros, un employeur doit mettre une annonce publique de recherche d'emploi. Et si aucun Américain ne répond et que toi, en tant qu'étranger, tu réponds, tu peux prétendre à une green card. Donc ça, c'est une des autres manières. Et une autre façon encore, c'est donc il y a une autre façon, pardon, c'est l'investissement. J'ai tendance à l'oublier parce que ça demande quand même des ressources énormes, hein, ça demande plusieurs millions de dollars et le fait de créer plusieurs emplois. Donc ça s'adresse vraiment à un type de personne très particulier. Et sinon, autrement, il y a la loterie Green Card, qui est un truc qui est assez peu connu. Mais chaque année, tu as 55 000 visas qui sont 55 000 Green Cards en fait qui sont donnés. Sur la base d'une loterie. C'est-à-dire que littéralement, tu t'inscris à la loterie et si tu es tiré au sort, tu as le droit de demander la green card. C'est aussi simple que ça, c'est gratuit. Tu as 55 000 visas, je crois autour de 25 millions de participants, si je me trompe pas.
J'ai regardé tout à l'heure en France, il me semble qu'il y a genre, il doit y avoir 1,5% qui sont sélectionnés, quelque chose comme ça,
Ouais,
en France.
c'est ce que j'avais lu,
Donc
ouais, c'est
c'est
autour d'un pour cent, ouais.
difficile, mais bon, c'est toujours possible. Ouais.
L'avantage, en fait, c'est que c'est une démarche qui est gratuite. Donc, en fait, c'est quelque chose que tu peux faire tous les ans. Et ça, si tu rentres dans aucune autre catégorie ou si t'as pas un besoin très précis de vouloir vivre aux États-Unis et que c'est juste un rêve que tu as envie de faire un jour, entre guillemets, moi, je pense que c'est la meilleure option. Sinon, oui, celles qui sont au travail. Il y a énormément de façons de pouvoir rentrer aux États-Unis via le travail. Et ça, c'est ce que je dirais à la plupart des gens qui sont dans des situations où ils sont déjà mariés ou rien d'autre ne s'appliquerait. C'est de regarder du côté travail et que même ça peut être parfois assez facile via des boîtes françaises installées aux États-Unis d'avoir des employeurs français qui vont aller pas trafiquer des offres, mais faire en sorte que des offres ne rentrent pas dans des critères américains pour faciliter des entrées françaises notamment.
Ouais. Et il y a donc, pour passer à autre chose, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as choisi New York au final, puisque vous êtes rencontrés dans le Tennessee?
Parce que ma femme est comédienne. Elle est comédienne et joue dans des comédies musicales notamment. Donc c'est, on va dire que New York, Broadway, enfin c'est vraiment l'endroit où être pour développer ce genre d'activité, quoi.
Ouais, forcément. Et donc, ça fait maintenant un an que tu es à New York. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui te manquent de la France?
Je vais te répondre à 100% la nourriture.
Évidemment, toujours.
La nourriture, ça manque énormément. Et c'est... On a toujours l'impression que c'est surestimé quand on entend des expats parler de la bouffe ailleurs. Mais en fait, tu sais, enfin, manger, c'est un truc que tu fais 3 fois par jour. Et quand tu as tes habitudes et que tu te retrouves aux États-Unis où mal manger, c'est très peu cher, et bien manger, c'est excessivement cher. C'est un combat que tu fais 3 fois par jour, en fait, de t'alimenter à peu près correctement. Et t'as pas accès même à t'as pas accès à des produits de base que tu trouverais en France, tu vois. Et ça, c'est terriblement frustrant. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième, moi, ça va être vraiment les relations sociales que tu puisses avoir en France. Et on en parlait un petit peu avec cette culture du aller boire un verre, mais ça, c'est un truc qui n'existe pas ici. Et je dirais même de façon un peu plus globale que les Américains n'ont pas cette culture de la perte de temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, tu peux assez facilement, tu vois, te retrouver, retrouver quelqu'un pour un déj. Tu vas déjeuner avec la personne et au final, ça va durer. Tu vas discuter, refaire le monde, tu vois, pour aucune raison en fait. Juste pour le plaisir de discuter, passer du temps avec la personne, etc. Et ça n'existe pas vraiment ici, parce qu'ici, le temps est hyper compté. Et les gens refusent de perdre ce temps-là.
Surtout à New York,
donc,
je pense.
Ah oui, surtout à New York, quoi, c'est terrible. Mais oui, tu retrouves quelqu'un, une heure après, la personne s'en va, quoi. Ou bien tu te retrouves pour manger, t'es servi en 5 minutes, et t'as fini de manger en 10 minutes, et au bout de 20 minutes, t'es sorti du resto. Ce que je veux dire, c'est que ça, ça a vraiment c'est vraiment une grosse différence que tu as entre la France, ou je pense même au plus large des pays européens latins, et les États-Unis. C'est cette culture de la perte de temps. Je ne sais pas si c'est le vrai terme, hein, je pense qu'il y a des gens qui ont théorisé sur la question qui ont un meilleur terme que ça. Mais,
ouais, c'est vrai.
Mais ça, c'est vraiment un truc qui me manque, ouais.
Ça, même en tant que. Même sans forcément être dans le monde, à New York, des adultes, etc., je pense, moi, même à l'université. Où on était à la campagne, c'est vrai que très rarement on passait des heures à parler, quoi. Si on voulait aller boire un truc, une fois qu'on a fini de boire, on s'en va, quoi. C'est assez perturbant.
Ouais, c'est exactement ça, ouais.
Et à l'inverse, ce serait quoi qui te manque le moins de la France?
Ça, c'est difficile. Le premier truc qui me vient, c'est que j'étais à New York pendant toute cette période gilet jaune où tout le monde se plaignait des transports qui fonctionnaient plus personne pouvait prendre le train, le pays était complètement bloqué de partout. Ça, je t'avoue que j'étais très content d'être ici. Et je vais pas porter ici de jugement de valeur sur le combat ou quoi que ce soit ou tout ce truc-là, mais c'est vrai que j'étais content d'être ici et de me dire que j'étais pas dépendant du métro à la française qui soit fonctionne jamais, soit est en grève. Pareil pour les trains. Ouais, j'étais assez content d'être dans un pays où ces choses-là tournent.
C'est vrai que c'est culturel, ça. J'étais aussi aux États-Unis pendant cette période-là. Tout le monde ne me parlait que de ça, comme si c'était incroyable, ces histoires de grève. Alors que bon, finalement, nous, on y est habitués quand on y vit. C'est assez intéressant de voir ça comme
exactement, différence. Ouais.
Et si on retourne la question, peut-être je pourrais te demander s'il y a quelque chose avec lequel tu vis aux États-Unis que tu penses te manquerait trop si tu devais retourner en France.
Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a le côté très liberté du pays. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Moi, je trouve très peu jugé. En fait, il y a assez peu de structures culturelles comme tu peux en avoir en France. Et donc, en fait, c'est assez agréable d'être dans un environnement où il n'y a pas vraiment ces codes culturels aussi présent et aussi dur qu'en France.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais que c'est un pays qui est construit autour de la praticité. Tout est pratique. Tout est au plus pratique, tout le temps. Le meilleur exemple, c'est les boutiques ouvertes 24 heures sur 24. Ouais. Tout est ouvert partout, tout le temps. Et ça, bah, tu vois, j'ai même un marchand de fruits et légumes qui est ouvert 24 heures sur 24 à côté de chez moi. Alors, je ne sais pas à quoi ça va servir. Tu vois, peut-être à 2h matin, à 2h du matin, je vais avoir envie de chou-fleur. Tu vois, je vais pouvoir avoir la possibilité d'aller acheter du chou-fleur. J'ai une pharmacie, donc un CVS qui est ouvert 24 heures sur 24 à côté de chez moi. J'ai un resto ouvert 24 heures sur 24 à côté de chez moi. Enfin, voilà, ça, c'est génial. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est pratique. Tout est pensé au plus pratique. Donc, typiquement, tu ne vas pas retirer de l'argent. Tu utilises du cashback. Donc, au moment où tu payes dans un magasin, tu peux choisir du cashback, c'est-à-dire que tu rajoutes, je sais pas, $40 sur ton addition totale de ce que tu payes, et on te sort $40 en cash du comptoir, quoi. Donc comme ça, t'as pas besoin d'aller retirer dans un distributeur. T'as plein de choses comme ça qui rendent ta vie, en fait, quotidienne, vachement plus facile, tout le temps.
Et ce qui est super cool, c'est que c'est pas uniquement dans les grandes villes.
Ouais, c'est partout, ouais.
Tout ce qui est... Même j'étais dans un tout petit bled, il y avait toujours ces trucs ouverts 24 heures sur 24 aussi, qu'on n'a même pas à Paris,
ouais,
au final.
Exactement.
Enfin, il y a des choses comme ça à Paris, je veux dire, mais pas aussi fréquemment.
Et ça, c'est un truc qui avait choqué ma femme quand elle était venue vivre à Paris, où parfois, tu sais, truc ridicule, mais t'as... Je sais pas, 3h du matin, t'arrives pas à dormir, et tu dis, bah tiens, je vais aller dehors, je vais aller traîner dans un magasin, ou bien je vais aller me bouffer un truc, tu vois. Et elle me disait, c'est hyper frustrant de te dire qu'en fait, tu dois prévoir tous tes besoins, tous les besoins que tu vas avoir entre 18h et 10h30 le lendemain, tu dois les prévoir, quoi.
Ouais,
et que si tu les prévois pas, bah tu peux littéralement rien faire. Ouais. Et ouais, le dimanche aussi, ouais, notamment, ouais. Moi, j'avais oublié qu'effectivement, rien n'est fermé le dimanche ici. Évidemment.
Exactement.
Tout tourne tout le temps. Et t'as tout. Pareil, tu vas dans les supermarchés, tu as des tomates toute l'année, qui leur prix ne varie même pas en hiver, hein, tu vois. Bon, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, c'est terrible, mais tu vis dans un truc où tu as de l'abondance partout, tout est possible, tout est une option.
Non, c'est vrai. Pour avoir passé presque 2 ans quand je suis rentré en France, il y a toutes ces choses-là, le côté pratique, je pense que c'est aussi ce qui m'a manqué de plus. Donc, en tant que local à New York, ce serait quoi ton petit conseil pour les gens qui viennent visiter ? Est-ce que ce serait, par exemple, un coin méconnu ou des choses à faire ? Parce que tu l'as même dit tout à l'heure, quand on visite New York pour la première fois, on a l'impression de connaître la ville par cœur. Au final, maintenant, tu y vis, ouais. Donc je pense que tu vois les choses différemment.
Oui, je dirais aux gens de sortir un peu de Manhattan. De sortir un petit peu de Manhattan et d'aller... Alors, je sais que Brooklyn, c'est hyper populaire, mais bon, au final, Brooklyn, c'est tellement gentrifié maintenant que ça n'a plus vraiment grand intérêt. Alors, c'est cool d'aller voir Brooklyn, un peu ce qui se passe et compagnie. Bon, moi, il se trouve que j'aime pas trop le quartier, mais... ouais, aller à Brooklyn, aller dans le Queens, aller à Astoria, c'est là où je vis, c'est super. Je crois que c'est Astoria, enfin, cette partie-là du Queens... Je crois que c'est la ville sur Terre où on parle le plus de langues au kilomètre carré.
Ouais,
c'est l'endroit le plus cosmopolite du monde. Et donc c'est génial, tu vois, t'as des restos de toutes les nationalités différentes possibles et imaginables. T'as une vue sur Manhattan qui est magnifique. Voilà, moi je dirais aux gens de sortir un petit peu. Et un deuxième hack qui est... Ça pour le coup c'est un vrai hack, mais c'est d'utiliser le ferry. Le ferry qui est géré par la société de métro MTA. Ils ont un système de ferry qui, je crois que ils ont un terminus à Wall Street, mais où tu peux aller dans plusieurs endroits, dans Manhattan, dans Brooklyn, dans le Queens, etc. avec. Ça te coûte le même prix qu'un ticket de métro, mais t'es sur un ferry, donc c'est hyper cool, t'as une super vue sur Manhattan, magnifique, et t'as un petit bar à l'intérieur, hyper cool, avec des prix hyper bas, donc si tu veux grignoter un petit truc ou boire un petit verre de vin quand t'es sur le toit de ton ferry, les cheveux au vent, ben tu peux, et c'est pas cher, et c'est trop bien.
Et voilà, pour le même ça prix c'est vraiment un métro, truc. Finalement, l'expérience.
Ouais, et c'est blindé de locaux.
Ouais.
C'est blindé de locaux, c'est ça qui est ouf. C'est que t'as des gens qui vivent notamment à Astoria qui vont aller travailler à Wall Street via le ferry. Parce que c'est le même prix qu'un ticket de métro et au final, c'est plus rapide.
Sympa.
Ouais, carrément.
Et alors, en dehors de New York, donc t'as été à Nashville, je pense que t'as visité d'autres endroits aux États-Unis. C'est quoi l'endroit qui t'a le plus marqué ? Qu'est-ce que tu conseillerais de voir ?
Moi, j'ai beaucoup aimé Seattle.
Ouais.
Seattle, parce que c'est très très proche de la frontière canadienne. Et que c'est là où j'ai vu des gens qui avaient le meilleur entre l'état d'esprit européen et l'état d'esprit américain. C'est une des premières fois où j'ai entendu des Américains dire que le système américain était peut-être pas le meilleur. Et beaucoup de gens dire, par exemple, que s'ils étaient nés à 20 km de là où ils étaient nés, c'est-à-dire en gros, s'ils étaient nés à c'est Vancouver ou Toronto, à côté de Seattle. J'ai un doute.
Vancouver. Toronto est plus du côté de l'État de New York.
Ouais, c'est ça. Oh oui, complètement. Pff, ridicule. Bref, tu te retrouves avec des Américains qui t'expliquent que s'ils étaient nés à 20 km de là où ils étaient nés, donc à Vancouver, bah, ils auraient eu la sécu, l'école gratuite, ce genre de choses-là. Et c'est une des premières fois où j'ai vraiment entendu un discours sain, pas anti-américain, mais un peu de remise en question, de se dire « Ouais, en fait, les États-Unis, c'est chouette, mais c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de mieux, c'est peut-être pas ce qui devrait être la norme. »
Ouais.
Donc j'ai beaucoup aimé Seattle parce qu'il y a ce côté très américain, des grands bâtiments, de la ville, machin, mais en même temps le côté très très progressif que tu peux entendre du Canada, de ce genre de choses là et j'ai trouvé ça très agréable d'entendre un petit peu de nuance et un peu moins de patriotisme déplacé dans ce qu'on entend dans la bouche des gens.
Ouais, surtout pour toi qui as pu connaître le Sud, je pense qu'on est sur des mentalités complètement différentes, même si on est dans le même pays, au final, ça n'a rien à voir.
Ouais, complètement, ouais. Ouais, non, c'est sûr que le Sud, c'est très particulier, mais tu vois, même un état comme, même un endroit comme New York, qui est évidemment beaucoup plus ouvert d'esprit et beaucoup plus... empathique que le Sud, est beaucoup moins républicain, beaucoup plus démocrate. New York, t'es quand même bercé dans une espèce de culture de on est new-yorkais, on est différent, on est meilleur que la terre entière, quoi. Et ouais. Bon, New York, c'est une super belle ville, mais bon, faut, à un moment donné, il faut remettre les pieds sur terre. New York, c'est une ville qui est beaucoup trop chère pour ce que c'est. Enfin voilà, il y a plein de défauts à New York, hein. C'est pas non plus l'Eldorado dont tout le monde parle, quoi.
Ouais, je pense que pour le coup, New York, c'est encore autre chose. On est presque sur un autre pays. Même dans l'État, j'étais à 2 heures de New York et on sentait qu'il y avait une différence entre les New Yorkais de la ville et les New Yorkais de l'État. Donc je pense que c'est encore un cas particulier.
Ouais. Oui, complètement, oui.
À l'inverse, est-ce qu'il y aurait des endroits qui t'ont un peu déçu ? Je crois que tu m'avais parlé d'Orlando, par exemple, où ça t'avait un feeling un peu particulier.
Ouais, j'ai été un petit peu en Floride. Je suis allé d'Orlando à Miami en voiture. Mm-hmm. Et Orlando, j'ai trouvé ça... Alors, je suis partagé parce que, en fait, c'est... si tu prends ce qu'est Disneyland ou Disney World, je ne sais plus lequel est là-bas. Disney World, ouais. Il me semble, bien sûr. Ça, c'est super. Tu vois, c'est très américain. Ben, comme tu en parlais dans ta vidéo, c'est le symbole des vacances à l'américaine. C'est tout ce truc-là. Mais en fait, toute la ville s'est construite autour de Disney World. Et au final, tu es un peu face à une ville fantôme. C'est-à-dire que Orlando, en tant que ville, n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que tu y vas pour Disney World et les gens qui y vivent, c'est les gens qui travaillent à Disney World.
Non, c'est vrai.
Et alors oui, évidemment, tu dois avoir des petites parties où tu as des locaux, où tu as des machins, des choses à faire, j'en suis persuadé, mais j'avais quand même eu cette espèce d'impression de ville fantôme et je sais plus avec qui j'en avais parlé, je crois que j'en avais parlé à un Américain, et un Américain, justement, me disait qu'il y avait énormément de villes aux États-Unis qui étaient comme ça. Il me parlait de toutes les villes qui étaient construites autour des parcs naturels ou autour des grandes attractions touristiques, où il me disait c'est que des villes fantômes, c'est des villes qui n'existent pas, c'est des villes qui ont été taillées pour les touristes, où les seules personnes qui y vivent sont les employés des commerces en question, quoi. Et que finalement, dans la plupart des endroits ruraux des États-Unis, c'était un petit peu comme ça, quoi. Et j'ai pas fait toutes les villes aux États-Unis, très loin de là, j'ai même assez peu visité les États-Unis au final. Mais ouais, ça m'avait vraiment fait drôle à Orlando, et bizarrement j'ai un petit peu retrouvé ça aussi à Miami, où Miami, ouais. Tu te rends compte qu'en fait ce que tu connais de Miami c'est le strip, je sais plus comment il s'appelle, Ocean Drive t'as Ocean Drive et en fait c'est tout. T'as une grande plage où t'as des touristes et t'as Ocean Drive où t'as tous les bars où t'as tous les touristes, mais en fait c'est tout et t'as pas grand chose d'autre, quoi, et tu te dis ben merde, tout ça pour ça, quoi. Et tu vois, tu vas avoir la même chose à Las Vegas, par exemple, où c'est taillé pour... En fait, c'est des villes qui existent, qui vivent par image, et toutes les infrastructures sont pensées pour maintenir cette image, quoi.
Ouais, mais Las Vegas, c'est très particulier aussi, ouais. C'est vraiment typiquement le genre d'endroit que je recommanderais pas à des gens où passer la semaine, quoi. Même Miami, une journée ou deux, c'est assez, on y passe le week-end. Las Vegas, c'est pareil, j'ai passé 2 jours, je crois, et j'en avais assez, quoi.
Ouais, très chouette après Las Vegas, hein. Enfin, je veux dire, c'est très très américain, c'est le rêve américain dans toute sa splendeur. Enfin, je veux dire, moi j'ai
Ah,
beaucoup aimé,
clairement,
mais
c'est
effectivement, ouais,
particulier.
passer 2 jours, tu t'emmerdes, t'as rien à faire, ouais.
Ça, donc, autre question, tu penses ça aurait été quoi ta plus grosse galère dans ton aventure US? Sauf peut-être la carte verte, si on en a déjà parlé, plus quelque chose que tu pourrais considérer anecdotique, mais que tu gardes en mémoire.
J'ai pas d'événement en particulier qui me vient. Ce que je peux dire, par contre, c'est que même si je parle très très bien anglais, il n'y a pas, comment dire, tout ce que je dois faire nécessite un plus gros effort que ce que ça me demanderait en France. Téléphoner en anglais, c'est beaucoup plus épuisant que téléphoner en France, évidemment, parce que comprendre une conversation en anglais au téléphone, c'est plus compliqué qu'une conversation en français. Et tout ce genre de choses-là. En fait, toutes les tâches que je réalise au quotidien sont plus fatigantes en les faisant ici que si je les faisais en français. En fait, ça commence à aller mieux maintenant, mais je t'avoue que pendant les 3 à 6 premiers mois, fin de journée, j'étais mais explosé et j'avais pas l'impression de faire grand-chose de mes journées. Mais c'est qu'en réalité, même faire tes courses, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, toutes ces choses-là sont beaucoup plus compliquées finalement. Si tu commandes sur une application de livraison ton repas et qu'au bout d'une heure t'as toujours rien reçu et qu'il faut que t'appelles le restaurant ou que t'appelles ton livreur, la conversation elle est beaucoup plus compliquée à avoir que si ça t'arrive en France. Tu vois, bon, après je suis aussi quelqu'un qui a
Ouais, bien
beaucoup
sûr.
d'anxiété au téléphone par exemple, mais ce que je veux dire c'est que t'es en fait en permanence confronté à beaucoup plus de stress et d'efforts à fournir pour maintenir une vie normale quand tu vis à l'étranger. Ouais, donc
Ouais.
ça a été un petit peu. Ça a été un petit peu compliqué. Au-delà du fait qu'en plus tu dois t'adapter à tout un nouveau système. Tu vois, le système de métro à New York, par exemple, ne fonctionne pas du tout comme il fonctionne à Paris. Toutes ces choses-là sont très différentes. Les conventions sociales sont différentes. Donc en fait, c'est de l'adaptation permanente, mixée avec le fait que tu parles une langue différente 24 heures sur 24. Ça, c'est très épuisant. C'est un vrai challenge et c'est un vrai combat, quoi.
Et à l'inverse, si tu avais un souvenir que tu aurais envie de nous partager, un souvenir de cette aventure, ça serait quoi?
C'est quand on est sorti, ma femme et moi, du bureau de l'immigration après l'interview, où la personne qui a conduit notre interview sur le chemin du retour nous a dit, c'est bon, vous allez recevoir votre green card par la poste d'ici quelques semaines. Quand je suis sorti dans la rue, je me suis pas senti comme un touriste à New York, mais je me suis senti comme quelqu'un qui vivait là et qui avait le droit d'y être. Ça
Ah ouais.
va, ça passe, c'est hyper difficile d'expliquer le sentiment que j'ai. Mais en fait, pour revenir un petit peu à la green card et un petit peu comment ça se passe, j'étais venu avec mon visa de 3 mois, et à partir du moment où j'avais envoyé mes formulaires pour Adjustment of Status, mon visa de 3 mois était expiré. Tu as le droit de rester avec un visa expiré aux États-Unis quand tu fais ta demande de green card comme ça. C'est autorisé. Tu as le droit tant qu'il n'y a pas à rester sur le territoire, tant que tu n'as pas reçu de réponse. Mais n'empêche que, au fond de toi, c'est énormément d'instabilité parce que tu te dis, si je me fais contrôler dans la rue pour X ou Y raison et que je montre mon passeport, tout ce que je peux montrer, tout ce que je suis en mesure de montrer, c'est un visa expiré.
Ouais.
Donc tu te sens quand même hyper vulnérable. Moi, j'avais voulu faire une carte d'identité locale parce que j'ai. Même sans être américain, tu as le droit d'en faire une. Donc j'avais le droit de la demander. J'avais tous les papiers qu'il fallait, etc. Et quand j'y suis allé, on m'a dit non parce que j'ai un visa expiré. Et on a menacé d'appeler la police parce qu'on m'a dit, mais votre visa a expiré. J'avais beau dire, bah non, regardez, j'ai bien soumis mes papiers d'immigration. Le problème, c'est que la plupart des administrations et compagnies ne connaissent pas ces situations-là. Donc pour eux, ce qu'ils voient, c'est juste un mec qui enfreint la loi, quoi. Donc si tu veux, tu entretiens un petit peu pendant 6 mois cette pensée que. Ben, t'es dans un pays, ils veulent pas de toi. Tu vois, on entend en permanence Trump qui tape sur les immigrés, qui veut pas que les immigrés viennent voler le travail des Américains et compagnie. Et tu te mets un petit peu dans ce bol-là et tu te dis, putain, mais en fait, j'essaye de venir dans un pays où on veut pas de moi, quoi. Et quand on est sorti de cette salle d'interview et quand on s'est retrouvé dans la rue, donc on était downtown, on était dans le sud de Manhattan. Et là, tu revois tous ces grands bâtiments et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est bon, je suis plus cet intrus-là, quoi. Je suis chez moi, c'est une drôle de sensation. Mais
Ouais, je peux
grosse
comprendre.
larme à l'œil quand c'est arrivé, ouais.
Pour terminer, si on se concentre sur un fait plutôt d'actualité, ça fait pas si longtemps que ça que t'as été, que t'étais aux États-Unis et manque de chance, bon maintenant il y a le coronavirus qui a frappé. Comment est-ce que c'est perçu à New York ? Est-ce que dans une situation de crise pareille, est-ce que tu es toujours content d'être aux États-Unis ou est-ce que des fois tu dis tu serais peut-être mieux en France ? Ou est-ce que tu vois pas de différence ?
Moi j'ai une position assez individuelle sur la question, c'est-à-dire que bon que je sois en France ou ici en fait c'est pareil parce que je sors pas de chez moi et voilà, donc en fait que je sois à Paris ou à la campagne ou chez moi ici à New York, c'est un petit peu pareil quoi. Parce que j'ai pris moi la décision de me dire je vais pas sortir ou alors le moins possible et quand je sors je me couvre, enfin je mets des gants et je mets un masque quoi. Les États-Unis, au New York en tout cas, donc c'est New York qui est le plus frappé de très très loin, c'est un désastre ce qui se passe ici. Actuellement les choses sont prises au sérieux, c'était pas le cas au départ. En France il y avait le confinement, il y avait toutes ces choses là et aux États-Unis il y avait toujours rien. Là maintenant les choses sont vraiment prises au sérieux, tu peux plus rentrer dans un commerce, enfin dans un supermarché ou quoi sans porter de masque, etc. Ils limitent le nombre d'entrées, enfin en gros tout est à peu près fait pour qu'il y ait le moins de contacts possible, donc globalement je me sens en sécurité ici par rapport à cette situation là. Ce qui est un peu plus effrayant, c'est bon notamment pour ma femme qui vient du sud, qui vient du Tennessee, c'est de voir comment ça se passe dans ces états du sud là.
Ouais.
On s'était posé la question de se dire est-ce qu'on rentrerait pas chez les parents de ma femme qui habite dans le Tennessee, dans une maison avec un jardin et compagnie, plutôt que de rester dans un appart à New York. Au final, on se dit, on est peut-être mieux ici, parce que ici, dès qu'on sort, au moins, les gens prennent les directives au sérieux, les gens se couvrent et tout ça. Alors que à Nashville, je sais pas à Nashville précisément, mais dans le Tennessee, la tendance n'est pas à la protection, bien au contraire, quoi.
Ouais.
On en entend actuellement où tu vois même des gens dans le sud qui t'expliquent que le virus c'est une conspiration, que ça n'existe pas, que c'est une conspiration créée par les démocrates pour saboter l'élection de Trump de la fin de l'année. Enfin bon, on t'entend quand même des trucs qui sont tout bonnement hallucinants et voilà, tu te dis que bon finalement s'il y a un endroit où c'est à peu près safe d'être aux États-Unis, c'est à New York.
Ouais.
Et voilà. Ce qui est paradoxal et terrible hein, en même temps, parce que tu te dis c'est l'endroit qui est le plus touché. Mais bon, t'es plus en sécurité ici que dans un état du sud, quoi.
Je pense qu'aussi, ce qui peut beaucoup jouer, c'est le fait que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, ce qu'on n'a pas forcément en France ou d'autres pays d'Europe.
Ouais, en fait, ça c'est un point qui est hyper important et que je vois assez peu développé dans les médias français qui parlent des États-Unis. De façon générale, je trouve que les médias français qui parlent des États-Unis, ils omettent beaucoup, beaucoup trop de points qui sont importants pour comprendre comment ça se passe ici et tirent des conclusions qui sont parfois qui n'ont pas de sens en fait. Et
ouais.
Oui, un des problèmes qu'il y a aux États-Unis dans les gens qui perdent leur emploi, c'est que l'assurance santé, elle vient de l'emploi que tu as aux États-Unis. Si tu perds ton emploi, tu perds ton assurance santé. Et les frais de santé aux États-Unis sont faramineux. Ils sont bien plus hauts que ce qu'on peut imaginer. Déjà que moi, j'ai une assurance santé, par exemple, qui ne couvre pas les dépenses liées au Covid, par exemple. J'ai une assurance santé qui est très bonne, mais elle ne couvre pas le Covid. Donc même quand assuré, tu n'es pas protégé face à une situation comme ça. Donc tu es aussi face à une situation qui est assez dramatique où tu as plein de gens qui ne sont plus assurés et qui donc ne vont pas à l'hôpital même s'ils ressentent des symptômes du coronavirus. Tu vas avoir des gens qui ne vont pas se faire dépister, tu vas avoir des gens qui vont se laisser mourir chez eux parce qu'il y en a aussi beaucoup qui se disent ben, de toute façon, si j'ai le coronavirus et que de toute façon je vais mourir parce que le coronavirus tue, ben autant que je meurs à la maison plutôt que d'aller mourir à l'hôpital, parce que si je meurs à l'hôpital, je crée des dettes monstrueuses pour ma famille.
Ouais.
Et ces gens-là, ils rentrent pas dans les statistiques qui sont comptabilisées, ça c'est un détail, mais ils rentrent pas dans les statistiques qui sont comptabilisées par les États-Unis. Donc même si les chiffres sont hyper alarmants, on est très très loin des chiffres véritables. En France, il n'y a pas vraiment cette situation-là, parce que globalement, Tu peux te pointer à l'hôpital pour absolument n'importe quelle raison et ça va a priori soit rien te coûter, soit très peu. Donc si tu commences à actuellement avoir quelques problèmes respiratoires et un peu de fièvre, tu vas aller à l'hôpital directement et tu vas recevoir les soins dont tu as besoin. Ici, non.
Et je pense aussi du coup qu'il y a cette... cette envie de réouvrir le pays à cause de ces gens qui veulent retrouver le boulot. Ce qu'on n'a pas forcément en France, que beaucoup sont au chômage technique par exemple. Je sais qu'on a, beaucoup rigolé ça, ouais. Des gens qui disent on veut aller chez le coiffeur, etc. Je pense que la plupart des gens disaient aussi j'ai envie de retourner au travail. Parce que j'ai des proches, par exemple, qui ont perdu leur travail et qui ont dû galérer pour toucher le chômage. Tellement c'est difficile niveau paperasse. Bon, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant de mentionner.
Oui, bien sûr. Ouais, t'as évidemment. Bah, c'est aussi le truc de au-delà de même pour l'argent et de tout ça, c'est que tu connais le confinement, mais tu t'emmerdes un peu quand t'es confiné. C'est con, ouais. Mais il y a ça aussi. C'est qu'il y a un moment donné, tu tournes en rond, tu te dis pourquoi je fais ça, quoi. Pourquoi ça fait 2 mois que je suis bloqué chez moi? Pourquoi ça fait 2 mois que je fais rien? J'ai plus d'argent. Je peux même pas consommer. C'est le seul truc qui m'occupe, entre guillemets, je peux plus le faire, t'en as qui peuvent même plus payer leur loyer, enfin, je veux dire, t'es vraiment dans une situation qui est terrible. Réouvrir le pays, c'est un vrai débat, on a le même en France, hein, au final. Hein. Le débat a peut-être un peu plus d'enjeux ici. Le problème de ce débat, c'est qu'il est devenu très politique, en fait, un petit peu comme chaque événement aux États-Unis, où, en fait, les gens qui veulent réouvrir le pays sont des républicains qui sont très pro-Trump, et il y en a beaucoup qui veulent le rouvrir pas pour les bonnes raisons non plus. Il y en a beaucoup qui t'expliquent que les masques ne servent à rien, que le virus n'existe pas, que de toute façon c'est les pauvres qui meurent et que de toute façon bah c'est pas grave. Voilà, ouais, le problème d'une réouverture du pays, c'est que le problème d'une réouverture du pays, c'est que si tu le fais convenablement, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais si tu le fais convenablement, c'est-à-dire que tu réouvres à peu près tout et que toi, en tant qu'individu, t'es capable de te réguler à pas sortir pour aucune raison et ce genre de choses-là, tout tourne, tu vois. Si tu portes ton masque et que tout le monde porte un masque, a priori, tout tourne à peu près correctement. Le problème, c'est que t'as une grosse partie des Américains qui est dans la provoque, qui est pro-Trump et qui, elle, veut aller chez le coiffeur, se poser au restaurant, bouffer sur place et ce genre de choses-là, où t'as envie de dire « Ouais, non, quoi. C'est peut-être pas la priorité maintenant. » On verra dans quelques temps.
On verra.
T'as une photo assez célèbre qui a beaucoup tourné où tu vois deux cuisiniers d'un restaurant de couleur qui servent une vieille blanche américaine tout sourire qui est posée au bar du resto, quoi.
Ouais.
Et où t'as envie de dire, ben non, on va pas rouvrir le pays pour ça, c'est ridicule. Et elle ne porte pas de masque et les cuisiniers en portent un. C'est la photo a beaucoup tourné, mais parce qu'elle a réellement du sens aujourd'hui. Il y a une grosse partie des Américains qui veulent réouvrir le pays pour repartir sur une vie comme ça, où ouais. Genre à aucun moment c'est souhaitable en fait.
On verra bien comment ça se passe. Pour l'instant déjà c'est assez étrange. Il se passe beaucoup de choses, donc rendez-vous. Dans
ouais, c'est
moments.
Sûr, bien sûr.
Pour terminer, je te poserai la question que je pose à chaque invité, surtout toi qui as nommé ton site Mon rêve américain. Comment tu définirais le rêve américain et est-ce qu'il existe, surtout, selon toi?
Ouais, j'aime bien l'expression rêve américain parce que je pense qu'on est... Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans cette expression-là, dans le sens où c'est un truc, c'est réellement un rêve que tu cultives. C'est-à-dire que tu es confronté à énormément de pop culture américaine, pro-américaine, etc. Et donc, en fait, tu te mets à rêver des États-Unis. Tu vois, tu veux vivre aux États-Unis, tu veux... C'est ton rêve, quoi. Ça devient ton rêve. Donc, moi, je comprends le rêve américain dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est ce fantasme d'aller y vivre, quoi. Est-ce que, une fois que t'es sur place, est-ce que le rêve américain existe? C'est-à-dire le fameux ascenseur social dont tout le monde parlait à l'époque, etc. Je sais pas. Je pense cependant qu'il y a beaucoup plus de possibilités ici qu'il y en a en France, notamment. Moi, je parle notamment en tant que freelance ou entrepreneur ou ce genre de choses-là, où tu veux monter des projets, t'as quand même énormément de freins en France. Que ce soit au niveau des statuts, que ce soit au niveau des charges et des impôts, c'est quand même compliqué, entre guillemets. T'as beaucoup de barrières à l'entrée pour pouvoir te lancer et espérer faire quelque chose. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis, où aux États-Unis, t'as pas le droit d'avoir une société, tu n'as pas besoin d'avoir une société pour facturer, par exemple. Tu peux complètement, toi, en tant qu'individu, commencer à faire n'importe quoi, faire un peu de photos par-ci, un peu de photos par-là, vendre de la bouffe à tes potes, faire des prestats en freelance, en design pour des boîtes. Enfin voilà, tu peux faire des trucs comme ça en tant qu'individu sans que ça pose problème à qui que ce soit, et t'es imposé comme tout le monde en fonction de tes revenus et compagnie. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est chouette. Je dirais aussi que il y a quand même beaucoup d'opportunités dans le sens où il y a quand même beaucoup de création d'emplois aux États-Unis. Il y a quand même une dynamique qui est beaucoup plus à la création d'emplois et compagnie qu'autre chose. Même en période de coronavirus, je vois de plus en plus d'entreprises qui continuent à embaucher en remote, etc. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas en France. Moi, j'ai cherché un travail à un moment donné en France, ça avait été un désastre. Hein. On était hors période Covid. C'était littéralement un désastre. Hein. Tu comptes les postes sur les doigts d'une main et à chaque fois, t'as 300 personnes qui postulent. Enfin, je veux dire... Enfin voilà, rien qu'obtenir un travail en France, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins le cas ici, quoi.
Ouais. Peut-être même aussi du point de vue créatif. Hein, je pense que tu peux avoir un avis là-dessus puisque ta femme travaille dans le spectacle. Enfin, je sais que beaucoup de gens vont aller sur New York, par exemple, ou en Californie, soit pour être acteur, soit pour travailler dans le spectacle. Ça me semble personnellement plus simple, même si je n'ai pas expérimenté, mais je connais quand même des gens qui travaillent là-dedans. Je pense que c'est intéressant aussi.
C'est plus simple parce qu'en fait, le marché est plus grand qu'en France, beaucoup plus grand en termes de volume. Et que, en fait, c'est aussi un détail, mais en France, tout ce qui est spectacle, art, etc., c'est sur-subventionné. Ça veut dire que, par exemple, une place de concert que tu payes 50 euros, il faut savoir que l'État fait un chèque derrière de 50 euros et qu'en réalité, ta place coûte 100 euros. C'est pas le cas ici. Ici, si tu veux aller voir un spectacle à Broadway, tu payes le prix fort, quoi. Tu payes 500 balles. Si tu veux être correctement placé sur un match de NBA ou tout ça, ça coûte 1000 dollars. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les prix montent très très vite. Et en fait, en France, on a fait baisser les prix, ce qui a fait en fait descendre la valeur perçue du spectacle et de l'art vivant et de l'art en général, en fait. J'ai l'impression. Enfin, c'est ma perception de la chose, mais c'est sûr que si une place en moyenne coûte 30 euros et que d'un coup t'as un spectacle qui en coûte 50, ben le spectacle qui coûte 50 il paraît excessivement cher, alors qu'ici tout est cher. Donc bon, au final, tu vois, tout se finance à peu près correctement et le spectacle fait de l'argent ici, il n'en fait pas en France. Donc bon, il y a peut-être 2-3 leçons à tirer de la façon dont ils font de l'entertainment ici, ouais.
Eh bien, en tout cas, je te remercie. Je vais quand même terminer sur ton site internet, donc l'adresse est monrêveaméricain.fr. Tu guides les gens pour les aider à obtenir la green card. Tu as même un guide gratuit qui donne toutes les manières pour l'obtenir. Est-ce que tu nous parlais un peu de ton site pour terminer ?
Oui, alors ben voilà, moi mon idée c'est qu'en fait je veux aider les gens à obtenir leur green card. J'ai pas envie de faire le travail d'un avocat. Moi mon idée c'est en gros de donner toutes les connaissances nécessaires pour s'en sortir dans cette avalanche d'informations qu'on peut avoir, c'est-à-dire trier le vrai du faux. Là il y a pas longtemps on a entendu qu'apparemment Trump supprimait la green card, c'est ce que tout le monde titrait. Ben, moi je suis là pour te dire que c'est pas vrai et que non, il y a encore moyen d'obtenir. Oui, donc j'ai mon guide gratuit, c'est la toute première étape. Quand tu arrives sur mon site, en laissant ton adresse email, tu reçois un guide gratuit par email qui est complet. C'est la ressource la plus complète sur la question. Il y a tous les visas d'immigration possibles à avoir, tous les critères à remplir ainsi que tous les formulaires à remplir. Et il y a évidemment ma page contact qui est là à dispo si jamais soit tu as des questions précises, soit tu as besoin d'un accompagnement. Et je suis là en gros pour faire en sorte que les gens ne payent pas des avocats 2000 dollars.
Eh ben, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin. Qui sait ? J'espère que des auditeurs ici en auront aussi besoin. C'était une très bonne conversation. Merci à toi.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Et on te retrouve sur ton site internet ou sur ton blog, du coup, où tu publies tes articles.
Exactement, ou par email.
À très bientôt.
Salut. Ciao.